Nous sommes sur RDIWA 107.5 et nous allons vous parler du Japon. Les studios Ghibli ont été créés en 1985. Le nom de Totoro vient de la mauvaise prononciation de troll, en japonais Toruru, par Mei. Le grand Totoro gris fait 2 mètres, le moyen Totoro bleu fait 60 cm et le plus petit Totoro blanc fait 30 cm. Dans Totoro, la mère a une maladie, c'était la tuberculose.
Je suis votre nouveau voisin, Monsieur Kusakabe.
Bonjour.
Ouais. Attends, attends, attends. Moi, j'ai pas peur des fantômes.
On a vu bouger quelque chose, papa. C'était des petites bêtes noires, il y en avait des milliers et des milliers, plein partout.
Chère maman, mon cœur bat très fort à l'heure où je t'écris. Nous avons vu Totoro, nous l'avons vu toutes les deux.
Et c'est une chance car peu de gens l'ont vu.
C'est le médecin de maman, il demande qu'on le contacte rapidement.
Qu'allons-nous devenir, Mei et moi, si maman meurt?
Moi, je pense que c'est le maître de la forêt que tu as vu. Et dis-toi que tu ne le reverras peut-être jamais.
Qui n'en revient pas? Comment a-t-il pu faire une chose si stupide?
Mei!
Je t'en prie!
Des haïkus plein les poches de Thierry Casal et Julie Van Wesmael. Bref poème venu du Japon, le haïku cherche à saisir en quelques mots la beauté mystérieuse de chaque instant. Ce matin, c'est la brise sur ma peau qui organise ma vie. Claire Landais. Elles font aussi partie de mes provisions d'hiver, ces lumières d'automne. Jean-Hugues Malineau. La main refermée sur quelques graines, je sens battre la vie. Ino Sojo.
Une affaire de famille. La tradition du théâtre No a été créée par un père et son fils, Kana Ami et Zeami.
Le théâtre Kabuki. Intrigue à rebondissement, fabuleux costumes, posture improbable, maquillage outrancier, effet de scène spectaculaire. Le maquillage. Maquillage épais suggère l'âge, le sexe et la classe sociale de chaque personnage, ainsi que son humeur et sa personnalité. Le jeu d'acteur. Des poses hautaines et mouvements exagérés font partie du jeu.
Thank you.
Rituel très codifié, la cérémonie du thé japonaise vise à libérer l'esprit des pensées, en se concentrant sur l'instant présent. La manière dont on fouette le matcha en poudre dans l'eau chaude, la disposition des ustensiles ainsi que le vocabulaire sont strictement réglementés. Enracinée dans les croyances du bouddhisme zen et la discipline spirituelle des samouraïs, la cérémonie du thé s'appuie sur des principes du XVIe siècle.
Au centre de la maison traditionnelle japonaise, on trouve toujours le irori, un foyer creusé à même le sol qui sert à faire chauffer la soupe ou le thé. Alors que dans de très nombreuses cultures, l'habitat est symbole de permanence et de transmission, au Japon, les maisons sont faites pour durer seulement une centaine d'années. D'ailleurs, au pays du soleil levant, on n'hérite pas d'une bâtisse mais seulement du terrain où elle est implantée. Lors d'une succession, il est ainsi très fréquent de raser la maison qui s'y trouve pour construire la sienne. Peu de meubles, quasiment pas de décoration, l'habitat japonais obéit une philosophie d'éphémérité et de simplicité. Les bonsaïs. Le bonsaï, mot signifiant « arbre en pot », est l'art de cultiver des arbres miniatures d'origine de Chine. L'art du bonsaï a été importé au Japon il y a environ un millénaire.
Jardin de thé. Le roji, signifiant « sol parsemé de rosée ». Et le jardin simple entourant les pavillons de thé japonais. Conçu pour ressembler à un sentier de montagne menant de la réalité au monde magique, de la cérémonie du thé. Sa végétation se compose principalement de mousse, de fougères et de plantes à feuilles persistantes. nature et l'âme japonaise. Sakura, la fleur sacrée. Chaque année au printemps, les médias suivent la floraison des cerisiers, ou sakura, d'île en île. La fleur de cerisier est sacrée, à double titre. Elle annonçait autrefois la saison de plantation du riz, et par sa fragilité, elle symbolise le caractère éphémère de l'existence. Pour lui rendre hommage et profiter de la beauté des sakuras, les Japonais ont coutume d'organiser de grands pique-niques sous les cerisiers, quand les beaux jours arrivent. C'est la tradition du o-hanami, littéralement la contemplation des fleurs.
Goraiko, ce terme japonais désigne le lever du soleil depuis le sommet du mont Fuji. Sylphothérapie, pour trouver la paix intérieure, essayez le bain de forêt, en japonais, silinyuku. Mettez vos sens à l'éveil dans la nature. Les sushis. Les sushis sont nés à Tokyo à la fin du 19e siècle. Le poisson cru présenté à l'origine sur un lit de riz vinaigré est désormais servi sous forme de bouchée. Le wasabi, ce condiment relevé de la saveur des sushis et des sashimi, sert également à détruire les bactéries présentes dans le poisson cru susceptibles de provoquer des intoxications.
La légende d'Urashima, un conte japonais. Il y avait une fois un brave pêcheur qui s'appelait Urashima. Il était grand et fort, mais il avait bon cœur et il aimait beaucoup les animaux. Un jour, alors qu'il se promenait le long de la mer, il aperçut un groupe de jeunes garçons qui criaient et s'agitaient autour d'un objet qu'il ne pouvait voir. Poussé par la curiosité, il s'approcha et découvrit que ces garnements tourmentaient une tortue qu'ils avaient réussi à tirer de l'eau. Il la battait, la faisait rouler et semblait s'amuser beaucoup de la tourmenter ainsi. « Vous n'avez pas honte ?» cria Urashima. « Pourquoi tourmentez-vous ainsi cette pauvre bête? Que vous a-t-elle fait ?»« Et toi, de quoi te mêles-tu » répondirent ces impertinents gamins. « Cette tortue est à nous. Laisse-nous tranquilles. » Sans plus écouter le brave homme, ils continuèrent leur manège. Voyant que ses paroles restaient sans effet, Urashima tira de sa poche les quelques pièces d'argent qu'il avait si durement gagnées et qui devaient payer son prochain repas, et il dit « Faisons un marché. Prenez cet argent et donnez-moi la tortue. » Les gamins ne se le firent pas répéter deux fois. Ils prirent l'argent et s'envolèrent vers le plus proche marchand de bonbons. Urashima se mit à caresser doucement la tortue puis la remit à l'eau, en disant « Va, ma pauvre tortue, ne te fais pas reprendre. » Il retourna chez lui en souriant, l'estomac vide sans doute, pris. Mais le cœur satisfait d'avoir agi ainsi. Quelques jours plus tard, Urashima se trouvait sur sa petite barque en train de pêcher en haute mer, quand il entendit une voix qui l'appelait. « Seigneur Urashima, Seigneur Urashima !» Étonné, il regarda autour de lui, mais ne vit que le ciel et la mer. « J'ai dû rêver, » pensait-il. Mais la petite voix reprit. « Seigneur Urashima, Seigneur Urashima !» Encore plus étonné, l'homme scruta la mer, et cette fois il vit une tortue qui nageait dans sa direction. Arrivée près de lui, elle s'inclina gracieusement et dit « Bonjour, Seigneur Urashima, ne me reconnais-tu pas? Je suis la tortue que tu as arrachée des mains des cruels gamins. Je t'en suis très reconnaissante et veux te le prouver. Monte sur mon dos. Je t'emmène rendre visite au puissant dragon roi des océans. » Stupéfait, Urashima fit ce qu'elle lui disait. À peine eut-il enfourché la tortue que celle-ci plongea dans les profondeurs de la mer. Il s'enfonçait sans cesse, passant devant d'extraordinaires jardins que jamais l'œil humain n'avait contemplés. Ils arrivèrent enfin devant un magnifique palais, rempli de perles, de lapis-lazuli, d'agates, de coraux. et de pantuiter d'autres pierres précieuses. Le grand portail du palais, décoré d'émaux bleus, rouges et jaunes, s'ouvrit mystérieusement devant eux. « Nous sommes au palais du puissant dragon, maître de tous les océans, » dit la tortue. « Viens, il t'attend. » Comme ils entraient dans le palais, des poissons de formes diverses et de couleurs éblouissantes vinrent à leur rencontre. Ces poissons s'inclinèrent profondément devant Urashima, l'escortèrent à travers de nombreux salons, tous plus admirables les uns que les autres, et arrivèrent devant le puissant dragon. Dire que Urashima fut étonné serait bien en dessous de la vérité. Il n'avait jamais vu tant de merveilles, et ne pensait même pas qu'elles puissent exister. Il demeurait là, bouche bée, regardant autour de lui, en oubliant de s'incliner devant le roi. « C'est donc toi, Urashima, l'homme plein de bonté qui a donné tout ce qu'il avait pour libérer la pauvre tortue. Merci, Urashima, sois le bienvenu dans mon royaume. Chacun de tes désirs sera pour nous un ordre, et tu seras mon hôte aussi longtemps qu'il te plaira. Va maintenant, tu es ici chez toi. » Il frappa dans ses mains, et de nombreux petits poissons danseurs apparurent, dont les nageoires étaient de fins voiles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils dansèrent devant notre héros une danse d'une grande beauté. Pendant ce temps, une pieuvre, avec l'aide d'un thon et d'autres poissons, préparait un succulent repas à l'intention du visiteur. Envoûté par ce monde extraordinaire, Urashima ne s'aperçut pas que le temps passait. Mais, à la longue, on se lasse des choses les plus belles. Un jour, Urashima commença à penser à sa petite maison, à ses parents, et il eut le désir de retourner parmi les hommes pour reprendre son travail. Il alla voir le dragon et se prosternant. « Roi puissant, dit-il, je te suis reconnaissant de ton hospitalité, mais il est temps que je retourne parmi les hommes. Demande, je te prie, à la tortue de me raccompagner. » Le dragon, qui s'était attaché au pêcheur, fut bien triste d'apprendre qu'il voulait partir, et il essaya, mais en vain, de l'en dissuader. Pour ne pas déplaire à son ami, le dragon fit appeler la tortue et lui demanda de raccompagner Urashima sur la terre. Puis il remit au pêcheur un petit coffret en lui disant « Adieu, Urashima, j'aurais voulu te garder toujours près de moi, mais qu'il soit fait selon ton désir. Tiens, prends ce coffret en souvenir de moi et garde-toi bien de l'ouvrir. Adieu. » Urashima prit le coffret, remercia encore le dragon de son hospitalité et enfourcha la tortue. En un clin d'œil, la tortue le transporta sur la plage d'où il était parti il y avait si longtemps, et après l'avoir salué, les larmes aux yeux, elle replongea dans la mer. Urashima, heureux de retrouver le bleu du ciel, prit le chemin de son village. À son grand étonnement, il constata que tout y était changé. Il chercha sa misérable maison, mais à sa place s'élevait un palais. Il chercha ses parents, ses amis, mais ne trouva personne. C'est qu'il avait passé bien des années dans les profondeurs de la mer. Il erra désespéré dans les rues, et les gens étonnés regardaient ce jeune homme habillé à la mode d'autrefois. Dans son désarroi, il prit le coffret et, oubliant la recommandation du dragon, il l'ouvrit. Un nuage blanc jaillit et l'enveloppa tout entier. Une fois la fumée dissipée, le jeune pêcheur se trouva transformé en un vieillard rabougri aux cheveux d'argent et à la longue barbe blanche. Le dragon lui avait fait don de la jeunesse éternelle, enfermée dans le coffret, mais le jeune pêcheur l'avait laissé échapper.
Nous espérons que cet audio vous a plu, et à bientôt sur Arthur.